belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec une artiste. Une artiste qui aime la couleur, les formes, et qui dit que sa peinture est un rêve, une abstraction devenue réalité. Elle vient nous retrouver aujourd'hui pour une belle rencontre. Bonjour Virginie Guidé.
Bonjour.
Virginie, déjà, c'est quoi pour vous une belle rencontre ?
Une belle rencontre, pour moi, c'est un événement qui peut bouleverser une vie, tout simplement. Et quand je dis bouleverser, c'est plutôt sur du long terme. C'est quelque chose où on ne revient pas en arrière.
C'est forcément, vous êtes artiste, hein, comme je dis, et comme on va le voir longuement, c'est forcément quelqu'un, une belle rencontre. Ça peut être aussi une œuvre.
Ah ouais, bien sûr. Une personne, une œuvre, une rencontre avec la peinture, tout simplement. Un pays, des gens.
Une culture.
Une culture. Mais bon, une rencontre, c'est quelque chose de profond. C'est pas j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. C'est plus que ça.
C'est quelque chose qui est déterminant, qui peut être déterminant. Vous avez eu la chance d'en faire beaucoup.
Beaucoup, je dirais pas que ce soit le mot, mais quand même, oui, plusieurs et tout au long de ma vie.
Quand on a préparé l'émission un peu par téléphone, Virginie, vous avez dit « Ah, on parle de rencontre, j'ai envie de parler d'une rencontre ».
Oui, oui, c'est ma rencontre avec Jean-Claude Rivière, justement, avec qui je travaille aujourd'hui dans la maison d'édition Ubicart.
Vous connaissiez depuis longtemps avant de travailler ensemble ?
En fait, oui, quand même, on se connaît depuis 2016-2017. Mais bon, c'était encore superficiel, plutôt dans les vernissages, des concerts. Et puis en fait, quand il a lancé Virtuelle Écriture pendant le Covid, où il lançait un thème par mois ouvert aux auteurs et aux artistes, en fait, bah, voilà, j'ai commencé à y participer chaque mois. Et un jour, elle m'a proposé de faire les couvertures d'une collection qu'il voulait lancer.
Oui, parce qu'entre-temps, et je profite aussi de cette émission qu'on a ensemble, de ce moment qu'on a ensemble, pour annoncer que Ubicart, donc, avec qui vous travaillez, aura maintenant une mensuelle où elle parlera de tout son travail, donc avec Jean-Claude Rivière, et vous, et d'autres, et des invités. Jean-Claude, en plus, à la fin du Covid, il a eu un gros pépin de santé qui a fait qu'il a redémarré. Donc c'est la collaboration avec les jaquettes, enfin les couvertures. Alors on va même dire le mot qu'il m'a dit, Jean-Claude, que c'est un beau. Les premières de couverture, voilà comme c'est bien
oui,
dit.
Oui.
Votre travail sur les premières de couverture des collections Ubicart, c'était après qu'il soit malade. Quand il a recommencé Ubicart, non, c'était pendant.
Non.
D'accord. Avant déjà, ça avait commencé.
Oui, le premier accident, il a eu lieu il y a 4 ans, je crois.
Ouais.
Et comme c'est un peu compliqué, par moment, il a des problèmes de santé. Donc, effectivement, à un moment donné, il a dû s'arrêter. Et puis, finalement, on a quand même lancé Ubicart.
Avec des collections, voilà, il y a toute une histoire. Ubicart, ça a commencé déjà avant la crise de l'Ukraine avec des petits livres, des grands textes à petit prix. C'était ça,
oui, c'était Grands Esprits, Petit Prix.
Voilà. Et puis après, l'obligation et les prix ont fait qu'on a pas pu tenir à l'inflation. Hein, voilà. C'est une belle histoire, mais c'est l'histoire d'Ubicart et ce n'est pas... C'est un peu l'histoire de Virginie Guidé, mais pas que... En préparant l'émission, vous m'avez confié que vous n'aimiez pas non plus regarder dans le passé. C'est quand j'ai dit alors, Virginie, non, Nathalie, le passé est moyen. Et que vous préfériez donc vous tourner vers l'avenir. Mais on ne peut pas ne pas parler un peu de votre parcours. Dans votre bio qui est disponible sur l'Artothèque de Montpellier, vous dites que vous êtes autodidacte. Vous nous en dites plus, justement, sur cette partie. Donc, pas d'école d'histoire de l'art, pas d'école, pas les beaux-arts.
Non. Non, en fait, autodidacte, je me suis formée justement en allant voir des expositions, en lisant des livres de pratique, des livres d'art, des livres d'auteurs. Puis aussi à partir de mon expérience personnelle.
L'enfant, Virginie, elle était attirée par l'art déjà ?
Oui, carrément. À l'époque, Je faisais de la danse classique, j'étais élève au conservatoire de Lille.
C'est pour ça que vous avez gardé cette silhouette.
Voilà, c'est ça. Hein? 11 ans de pratique de danse classique à forte dose. Et qui m'a, du coup, ben voilà, ça m'a fabriqué, ça m'a donné de la discipline, de la rigueur, de l'exigence. C'est une école, finalement, je m'en sers tous les jours. Alors que pendant longtemps, j'ai réprouvé la discipline de cette école. Et puis, j'ai passé ma petite enfance au Mali pendant 5 ans, de 3 à 8 ans à peu près. Et il me semble qu'il y a des résurgences au niveau de la mémoire, au niveau de ce que j'ai pu enregistrer enfant, les couleurs, les formes. Même là aujourd'hui avec mes dessins de nu. Et donc c'est toujours passionnant de se découvrir comme ça tout au long de sa vie.
C'est amusant parce que juste avant vous, j'ai reçu Antoine Barral qui a passé son enfance au Mali, au Haute-Volta, donc maintenant Burkina Faso. Et j'évoquais Mona Azam, qui est d'ailleurs édité par Abby Bakert, pour rien.
Oui.
Et pas pour rien, c'est le titre du livre, rien. Et Mona parle de son enfance en Afrique comme étant, aujourd'hui, elle a plus de 40 ans, et encore très présente. J'ai l'impression que quand on passe les premières années de sa vie dans la liberté de l'Afrique, ça reste toujours un peu en soi. Vous l'avez, cette petite part d'Afrique en vous encore ?
Ah oui, complètement, même toujours. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que finalement, j'étais toute petite. Et maintenant, quand je regarde des tout petits enfants, quand je vois à quelle vitesse ils mémorisent, que ce soit dans l'apprentissage ou dans ce qu'ils ont vu. Et j'ai l'impression, en plus, qu'en avançant dans l'âge, ces souvenirs, ces émotions, elles se précisent de plus en plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, c'est de l'émotion brute, vu que c'est de l'enfance. Voilà, je trouve que c'est intéressant.
Ça ressort, ça fait, c'est niché dans un coin de votre personnalité, de votre corps même, hein, voilà, de votre expression.
Ouais, même des odeurs, la façon de vivre.
On va parler plus longuement des médiums juste après, mais à quel âge vous avez pris un pinceau ? Parce que bon, comme tout le monde, vous avez dû faire des cours d'art plastique à l'école. Hein. Vous étiez bonne d'ailleurs en art plastique ?
En fait, j'en ai aucun souvenir.
Ah ouais. Moi, je me souviens d'un travail sur la... Parce qu'on est à peu près de la même génération, vous êtes plus jeune que moi, mais sur la perspective, il fallait dessiner, vous savez, des carrés noirs et blancs en perspective.
Oui.
Voilà, c'était le genre de... Moi, ça m'était très pénible, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui. Non, mais en fait...
Pas de souvenir.
Non, j'ai pas de souvenir. En fait... Pareil, quand j'étais enfant, à partir du moment où je suis rentrée au conservatoire, en fait, toute mon attention
était tournée vers la danse.
Ouais.
Et le pinceau, donc, parce que ça a été le premier outil pour travailler le pinceau, c'est à quel âge ?
Oh, alors là, je ne pourrais pas vous dire vraiment. Mm. Par contre, ce que je sais, c'est ma première peinture vraiment... que j'ai faite, qui m'a donné envie par la suite de faire de la peinture tous les jours, puisque ça fait quand même un moment que je peins. Je devais avoir 34, 35 ans.
D'accord.
Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été une rencontre, voilà, une rencontre. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté.
Et alors, ce premier pinceau, cette première peinture, elle était figurative, abstraite
Elle est...
Vous l'avez toujours, Virginie?
Oui, ouais. Oui, je l'ai toujours. On pourrait la qualifier d'abstraite. En fait, c'est un... Comment dirais-je? C'est un paysage un peu psychédélique, avec des petits bonhommes qui tombent des immeubles. Donc, c'est... Voilà.
Vous l'avez toujours ?
Je l'ai toujours.
Et vous l'avez rangée ou exposée chez vous ?
Non, elle est rangée.
Elle est rangée. Un jour, je vous ferai... Voilà.
Un jour, je vous ferai une visite.
Voilà, c'est ça. Donc, vous apprenez par les livres. Alors là, c'était ma première question. Les livres, alors, est-ce que c'est des livres sur l'histoire de la peinture, sur les apprentissages techniques ? Quels livres vous avez lus sur la peinture ?
Beaucoup. Beaucoup de livres, que ce soit d'histoire de l'art.
Parce que l'histoire de l'art, à chaque fois qu'on parle d'un peintre, vous connaissez, vous avez une grosse culture quand même côté, vous connaissez bien l'histoire de l'art.
C'est ce qu'on me dit.
Ouais. Ça se sent,
voilà.
Vous aimez ça.
Oui, et puis je m'en lasse pas, donc je suis souvent en train de fouiller, de chercher, d'approfondir une connaissance. de réfléchir, me questionner. Après, les livres techniques, alors à l'époque, je recopiais les livres techniques pour apprendre l'aquarelle, l'encre, l'huile. Et puis je m'amusais après à déconstruire et à peindre à ma façon. Donc ma façon aquarelle, ma façon huile, ma façon... Et voilà, puis en m'exerçant quotidiennement, on finit par parfaire nos techniques.
C'est ce que vous mettez aussi dans cette bio, c'est que vous travaillez sur l'expérimentation des médiums. Alors, vous m'avez expliqué ce que c'était les médiums. Donc, c'est les liquides, c'est ça, j'ai bien compris. Donc, l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, le pastel. On pourrait même mettre le fusain, tout ça, ça va avec
pour moi,
tout.
Oui, c'est un médium.
Voilà. Et donc, quand vous parlez de ces expérimentations, c'est quoi cette expérimentation? Comment vous faites ces expérimentations?
Alors, comment je fais mes expérimentations? En fait, tout simplement en essayant. En essayant les pigments, en aquarelle, les pigments, remarquer les pigments transparents, les pigments opaques, comment ils se mélangent, quel bleu avec quel jaune va faire tel vert. Même transgresser les règles académiques, moi je trouve que c'est très bon aussi. Et justement, c'est en expérimentant qu'on trouve des recettes, des effets, et c'est ce qui fait que la peinture restera encore plus fine.
Mais on vous sent extrêmement... Moi, je vous connais un tout petit peu à l'extérieur, mais vous êtes curieuse de nature, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent.
Oui.
Mais là aussi, on parlait aussi des supports, par exemple, du travail que vous faites sur les supports. Et là, j'ai bien compris qu'évidemment, les médiums, ça n'avait rien à voir avec les supports. Mais par contre, il y avait des supports qui n'acceptaient pas tous les médiums.
Mais voilà, mais ça...
Et c'est là l'expérimentation. Quoi.
Vous êtes
la docteure Foldingue.
Non, mais j'espère que beaucoup de peintres...
sont comme ça dans,
dans
la créativité.
Oui, le pratique... Oui, mais justement, c'est comme ça qu'on découvre qu'on peut faire du crayon sur de la toile, sur de la toile de jute brute ou pas brute, du collage, coller des matières. Alors après, on a des surprises, ça peut cloquer ou et pourquoi pas. Voilà,
c'est faut ça. Essayer.
Il faut essayer.
Il faut expérimenter.
Il faut pas se restreindre. Voilà.
Et dernière question sur la technique. Hein, vous dites aussi que votre principale motivation est de résoudre. Vous êtes mathématicienne en plus. Des problématiques picturales pour réaliser vos peintures. Donc, c'est quoi les problématiques culturales qui s'opposent à vous?
Alors, tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Par exemple, une problématique picturale, ça pourrait être de vouloir obtenir un fond de couleur foncée mais transparent. Ça peut être, là actuellement... je m'amuse à faire des sculptures, j'appelle ça des sculptures assemblages, c'est-à-dire que je découpe des formes dans du bois, je les peins recto verso, ensuite il faut les assembler, et comme je veux qu'elles soient pile poil, droites, il faut les coller, comment on les colle, comment on fait que ça tienne debout. Voilà, le but c'est il faut que ça tienne debout, il faut que ce soit beau à l'œil. Il faut que les couleurs chantent. Voilà, c'est tout ça les problèmes techniques. Mais on peut aller sur les sculptures,
sur tous les domaines de création. Vous qui connaissez l'histoire de l'art, est-ce que c'est quelque chose qu'en définitive tous les peintres, tout d'un coup en vous écoutant parler, je pense c'est Spumato, ce que faisait Léonard de Vinci, cette façon qu'il avait. Spumato ou Spumafo, c'est un nom comme ça.
C'est une histoire de contour.
Voilà, de contour très flou. Voilà. Est-ce que la majorité des peintres, ou du moins ceux qui nous sont arrivés, ils ne sont pas toujours dans l'expérimentation d'autres. Quand le mouvement expressionniste sort des ateliers pour peindre en plein air, évidemment, l'arrivée des couleurs dans les tubes,
L'invention technique.
Oui. C'est ça aussi qui pousse à la...
Oui, en fait, on remarque dans l'histoire de l'art qu'elle a souvent fait des grands pas au moment où il a existé une invention technique. Que ce soit la peinture en tube, que ce soit la photo, que ce soit maintenant le digital, l'informatique. L'informatique, ça fait au moins 40 ans que les artistes l'utilisent.
Travaillent avec.
Utilisent l'ordinateur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, on va vers l'art digital. Donc voilà,
c'est quelque chose qui vous intéresse aussi?
ça m'intéresse, oui, par curiosité. Après, de mon point de vue personnel, mais là c'est vraiment personnel, moi je tiens à travailler avec le minimum de matériel. C'est-à-dire un papier, un crayon, 6 couleurs toujours les mêmes. Moi j'aime avoir plutôt une base pour moi qui est solide et puis ça m'amuse, ça me plaît de développer, de trouver l'idée, de recommencer, de réinventer.
Est-ce que, par exemple, ce qu'on peut voir dans les collections de Beaubourg ou du Palais de Tokyo à Paris, par exemple, tout l'art qu'est-ce qui est fait avec la caméra. Enfin, voilà, il y a tout un art où on prend une photo de la même personne à plein d'âges différents et puis on fait des montages. Ou par exemple, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui a entassé les vêtements dans le... C'est un mec connu, hein, dans le Palais de Tokyo. Il y a une pièce en bas où on descend et il y a des entassements. C'est vraiment quelqu'un de très connu, mais ça ne va pas me revenir maintenant. C'est aussi de l'art, ça, pour vous ?
Ah oui. Complètement. Bon, là, ce sont des installations... Oui, bien sûr. Et finalement, l'art, qu'est-ce que c'est ?
C'est
quoi, difficile l'art à définir.
Parce c'est un peu un sujet de philo, il nous faudrait 4 heures
devant
nous.
Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de rechercher le beau.
Bien sûr.
On peut rechercher plutôt l'émotion ou le message ou justement le... Maintenant, tout est possible, tout est permis.
On va marquer une première pause musicale, Virginie, et vous avez choisi pour nous quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. C'est Zao de Sagazan, qui a une histoire particulière en plus, elle, très intéressante, personnelle. Et vous avez choisi pour nous la Symphonie des éclairs. On se retrouve juste après.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête t'as su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Et c'est sur ce son d'orage et d'éclairs qu'on reprend l'antenne. Aujourd'hui, La Belle Rencontre vous propose une rencontre avec Virginie Guidet. Et c'est Yann qui nous guide de l'autre côté du miroir. Voilà. Bonjour Yann et merci de ta fidélité. On parle de fidélité, de merci. Et Virginie, quand vous me parlez de vous, quand on échange, quand on se rencontre, on parle souvent des autres. Et de votre regard sur l'autre, sur les compagnonnages, c'est un mot qui vous va bien. Je trouve, vous me parliez, bon, on n'aura pas eu le temps d'aborder, c'est pour ça que je les appelais, mais de ce que vous avez construit autour de Saint-Hippolyte-du-Fort dans les Cévennes, la maman, hein, parce que vous êtes née. Mais vous êtes partie à Lille, vous avez fait l'école de danse, et en revenant, vous êtes revenue plus haut, et vous avez gardé des amitiés à Monoblet, à Saint-Hippo, dans toute cette région. Votre histoire de vie, elle est soulignée par toutes ces amitiés, ce sens du partage. C'est important pour vous, justement, ces rencontres ?
Oui, bien sûr, c'est même essentiel. C'est ce qui fait notre vie. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment formidables avec qui j'ai pu concrétiser des projets culturels, que ce soit autour de la peinture, du cinéma ou de la musique. Et aussi parce que c'est toujours un enrichissement permanent d'être au contact de gens différents qui nous apportent finalement plein de choses.
Par nature, et je sais que vous aimez Figueroles, hein, vous êtes vraiment du quartier, vous avez une identité de Figueroles forte, mais aujourd'hui, vous aimeriez vivre où, Virginie Guidet ? À la campagne ou à la ville ?
À la campagne !
Ouais.
Ouais. Ah oui, là maintenant, j'en ai envie, j'en ai peut-être même besoin.
Ouais. Les années Cévenol, c'était des années.
Oui. Oui, j'avais 30 ans, j'étais jeune. J'ai eu ma fille là-bas, j'ai fait des choses qui m'ont beaucoup marquée. Première création d'association autour du cinéma. On a organisé une tournée cinématographe ambulant dans 20 petits villages du Gard complètement perdus. On arrivait avec nos camions, l'écran. Il y avait des gens qui n'avaient pas été au cinéma depuis 40 ans. Ouais, c'est vrai que c'était
super
beau.
Vous pensez que ça sera encore possible, tout ça ?
Alors ça, j'en sais rien.
Ouais.
Franchement, je ne sais pas.
Mais c'est peut-être pas de cette vie-là qu'on recherche maintenant. C'est plus une vie de calme où vous pouvez créer.
Non, pas vraiment, non. Parce que finalement, en fait, je me suis rendu compte que dans les campagnes, il y avait une vie quand même culturelle très active, sûrement différente de ce qu'on peut trouver en ville. Et puis après, c'est par rapport à ma peinture. Moi, je suis amoureuse des grands espaces. Là, maintenant, j'en ai envie. J'ai envie de continuer ma peinture sur un angle, les paysages, les animaux, bon, c'est... Voilà.
Rejoignez-moi, moi qui suis à la campagne, je vous le dis, on est bien à la campagne.
Ah oui.
Je voudrais parler d'une partie de votre œuvre, on en a parlé un tout petit peu, mais sans parler des vôtres, qui sont les installations. Alors, je les avais découvertes dans une autre histoire d'amitié, et vraiment, je fais un clin d'œil à Thierry Arquet. Parce que Thierry a monté, évidemment, tout le monde le connaît sur Figueroles, le salon du livre et des arts de Figueroles, et il a voulu reproduire ça à Claret. Et vraiment, à chaque fois que j'échange avec Thierry, il me parle que Claret, c'est pas un salon du livre et des arts, c'est une philosophie aussi. C'est-à-dire que venir ici, aller à Claret ou aller à Figueroles, c'est aussi s'installer, c'est aussi retrouver des copains, c'est aussi une histoire d'amitié.
Ouais, de partage. De convivialité.
Voilà.
Ouais.
Et de collectif.
Oui.
Et que c'est vrai qu'il a des fois été chagriné par des gens qui viennent, qui posent leur livre et qui repartent et qui n'échangent avec aucun autour, qui sont là uniquement dans un but marchand. Et c'est vrai qu'on avait rigolé toutes les deux parce que vous m'aviez interpellée dans les et de parler de la beauté du lieu, de profiter tout ça, et que bon, bien sûr qu'il n'y avait pas des ventes des fois extraordinaires, mais qu'il y avait des rencontres formidables. Et surtout, pour revenir aux installations, c'est là où j'avais vu cette première installation qui était sous un dôme de boîte tressée,
oui,
qui s'appelait, alors vous m'avez rappelé, Mikado.
Oui. Oui.
Et moi, ça m'impressionne beaucoup, cette installation, parce que, autant, bien sûr, ça m'impressionne un tableau sur un support, etc., mais qu'un artiste arrive à habiter l'espace, et ça, vous avez l'air très à l'aise, justement, pour habiter l'espace. Vous m'en dites plus sur les installations et sur ce travail ?
Oui, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, ce sont des installations avec des volumes. Mikado, ce sont des baguettes de bois que j'ai peint. Cubes aussi. Et puis maintenant, il y a les sculptures. Ça fait partie d'une idée de tableau évolutif. Donc en fait, à chaque fois que j'installe Mikado, cube ou tangram ou d'autres, c'est un nouveau tableau, c'est un autre contexte, c'est plein de couleurs, et je trouve que dans l'espace comme ça, ça interpelle, ça tranche, et il y a une poésie.
Voilà, et alors ça, et puis les gens s'approprient.
Oui.
Et les enfants.
Ah, ils adorent.
Ils adorent ça, quoi.
Les enfants adorent. Ouais, ouais. Et là, maintenant, dernièrement, j'ai peint une trentaine de boîtes en couleur et en noir et blanc, en carton. Et pour la prochaine exposition, je vais les mettre à la disposition des enfants pour qu'ils puissent s'amuser à faire des montages. Voilà.
À les laisser libres aussi avec l'art.
À les laisser libres avec l'art. Et c'est vrai que quand je les vois jouer avec mes œuvres, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on peut toucher, on peut, même si ça s'abîme, c'est pas grave, je répare après. Donc, ça désacralise aussi l'art contemporain tel qu'on peut le concevoir. Et même l'utilisation de l'espace, tout simplement.
Bien sûr, ouais. C'est sûr que c'est... Et c'est étonnant, moi, on en parlait en préparant l'émission encore, mais c'est vrai que moi, les installations, je les ai découvertes très tard, par un voyage de boulot à New York. Et c'est vrai que je connaissais peu les installations en France, et que là-bas, j'ai vu les premières, et qu'il y avait des choses qui m'avaient, notamment une actrice, une plasticienne qui s'appelle Kiki Smith, que j'adore vraiment, et où il y avait une espèce de corps de femme assez lourd et des chapelets de billes rouges qui finissaient très grosses, bon, qui étaient évidemment la féminité, les règles, etc.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais ça avait une gueule, mais vraiment difficile pour un tableau de donner cette intensité d'une installation.
Oui, ouais, parce que je pense qu'il y a le fait qu'on le voit en volume, et il y a une force symbolique qui s'impose elle-même.
On parlait d'amitié, là, c'était le moment d'amitié, et contrairement aux autres émissions où on ne met qu'une pause musicale, là, vous m'avez fait découvrir, parce que je ne le connaissais pas, Fouad Darwish, et on en écoute un petit morceau, parce que le morceau dure plus de 8 minutes, et puis peut-être qu'après, Yann pourra nous le laisser en bac, voilà.
D'accord.
Pour qu'on parle sur Fouad Darwish et les New Dialects.
Ok.
C'est sur la musique de Fouad Darwish et des New Dialects qu'on va continuer à échanger avec Virginie Guidé pour cette belle rencontre qu'on vous propose aujourd'hui, et toujours Yann aux manettes. Virginie, on va se tourner vers l'avenir maintenant et les projets proches. Alors, dans les projets proches, il y a celui avec Jean-Claude Rivière sur les blasons du corps féminin, donc qui va bientôt être disponible, il n'est pas encore disponible en souscription.
Ah si,
la souscription est ouverte.
Oui,
vous nous en dites plus sur cette
Sur
ce blason du corps féminin.
Blason du corps féminin, c'est un très beau livre que Jean-Claude Rivière a écrit sur la femme. C'est une ode à la femme, au corps de la femme. C'est magnifique, c'est écrit en s'inspirant un peu du Moyen-Âge, du Cantique des Cantiques. Et il m'a proposé d'illustrer son livre. Donc, c'est un livre qui comprend 12 poèmes. Donc j'ai fait 12 dessins à la pierre noire. Et donc on a lancé une souscription parce qu'on va l'éditer en livre d'art. Donc ça sera un livre...
Donc techniquement, hein, j'ai le descriptif, donc je me permets Donc 30-30,
c'est ça.
Non relié. Donc si voilà. On veut après prendre une image et la mettre sous cadre, par exemple,
c'est
tout à fait possible.
Oui.
Donc dessin et texte, impression recto, évidemment, sur papier 250 grammes, oui, voilà. Hein, c'est... Donc 12 dessins inédits.
Sur du beau papier.
Oui, très beau papier, oui, 250 grammes. Épais déjà, accompagné d'une suite de dessins. La première de couverture, voilà, est illustrée par un dessin inédit de vous, Virginie, qui s'appelle Femme et Signe, qui est magnifique d'ailleurs. Hein, avec des, vous avez toujours comme ça des femmes
rondes.
Rondes. Non, parce qu'elle a un buste très fin, mais des femmes, en chair, enfin des vraies femmes, quoi.
Bah, des vraies femmes, c'est pas sympa pour
c'est
les
minces. C'est pas sympa pour les minces. Mais pour une fois qu'il y a de la rondeur, si vous voulez, moi ça fait 63 ans que je souffre de rondeur, donc là je suis contente qu'il y ait des femmes rondes. Non, j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup le peintre mexicain là, qui fait des femmes rondes aussi. Il y a toute une période de Picasso aussi où il fait des
Botero.
Femmes. Botero. Voilà. Des femmes très en chair, c'est vrai que c'est beau aussi.
C'est beau, oui, bien sûr. Bah en fait, c'est comme ça que je ressens la femme, avec des lignes rondes, des lignes précises. Elles sont complètement inventées, hein, malgré tout, hein, parce que...
C'est les poésies de Jean-Claude qui vous ont inspiré ?
C'est en lisant son livre. Alors après... je ne me suis pas attachée à illustrer le sujet, je me suis inspirée du poème et ensuite j'en ai fait un dessin, donc une interprétation libre. Et donc voilà, 12 poèmes, 12 femmes.
Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que le tirage est limité au nombre de souscripteurs, que la souscription a commencé, donc le 18 janvier, pour répondre à la question que je vous posais, et s'arrête le 20 mars, jour du printemps, et que ne seront imprimés, numérotés et signés par vous que ceux commandés avant le 20 mars.
Voilà, c'est ça, que par rapport au nombre de souscriptions, il n'y en aura pas un de plus.
Et donc la souscription, vous l'avez sortie à 60 €, ce qui pour un livre d'artiste n'est pas très cher.
Non,
hein, c'est mais tout à fait accessible. C'était un vœu de votre part de le rendre quand même accessible.
Oui, tout à fait. Et puis en utilisant les moyens d'impression aujourd'hui, on peut se le permettre. Après, c'est sûr, c'est pas le livre d'art avec une œuvre originale dedans.
Bien sûr, non, mais c'est déjà. C'est déjà un livre d'art. Et vous avez une date de sortie après, à peu près ?
Alors, je pense qu'on sera prêt pour le mois d'avril.
D'accord.
Voilà.
Et je connais Jean-Claude, le goût qu'il a pour faire des événements autour de ce jour.
Voilà.
Alors, il va nous préparer quelque chose.
C'est ça. comme une fois par mois, on fait une soirée 8 cartes au théâtre Pierre Tabar, avec qui on a un partenariat, où on fait nos sorties de presse. Et comme là-bas, il y a une salle où on a la possibilité d'exposer, donc pour la sortie du livre, il y aura exposition des dessins originaux, il y aura sûrement des lectures faites par des comédiens. Voilà, ça sera une soirée exceptionnelle.
Festive, très festive. Et puis dans le travail en cours, mais qui a déjà bien commencé, il y a tout ce que vous réalisez autour des parutions de chez Bicart. Donc des couvertures, des premières couvertures. À chaque fois, vous lisez le texte avant ? Pas toujours.
Pas toujours. Soit je le lis, soit je le survole.
Soit vous en parlez peut-être aussi avec l'auteur.
Voilà, j'en parle avec l'auteur, j'en parle avec Jean-Claude. C'est un peu le même principe avec la façon dont j'ai illustré Blason. Mm-hmm. En fait, je m'inspire plus que ce que j'illustre. Et puis, jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé la couverture qu'il fallait.
Parce que Blason, c'est vrai, quand on connaît ce que vous faites, qu'on est habitué à ces traits noirs et ces couleurs, hein, vraiment, voilà, on sait qu'on est devant une œuvre de Virginie Guidé. Blason, c'est un autre univers complet.
Tout à fait. Alors, c'est pareil. Je me découvre au fil du temps.
C'est super.
Oui, mais c'est ça qui est assez merveilleux.
Oui, oui.
Donc en fait, ma peinture en couleur, elle a tendance à être géométrique, avec des traits très droits, des couleurs très franches. Et quand Jean-Claude m'a proposé de faire ce travail, bon, je me suis dit, ok, je vais relever le défi. Et en fait, avant de faire des dessins comme je l'ai fait aujourd'hui, en fait, pendant au moins un an, je me suis exercée, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai essayé de trouver l'expression qui me corresponde le mieux dans ce que j'avais envie de représenter. Et puis, il fallait que je quitte la droite pour aller vers la courbe, de l'abstrait vers quelque chose de plutôt figuratif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, pardon, je suis dans une phase noir et blanc, qui, je pense, va durer quelques temps. Et puis, par la suite, j'imagine que la couleur va revenir. Mais après, comment ? Ça, j'en sais rien.
Et puis, il nous reste 2-3 minutes. Donc, dernière chose qui vous porte et dont vous m'avez parlé, c'est le Ludo Art. Donc, pour conclure, vous pouvez nous en dire quelques mots, Virginie ?
Oui. Ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, Ludo Art. Voilà, en fait, à partir de ma peinture, j'ai créé une ligne de jeux de société, donc plusieurs jeux que j'aimerais éditer peut-être pour fin 2024. Et c'est une collection de créations de jeux par des artistes. Donc voilà, mon intention, c'est de lancer cette collection.
Des artistes de vos compagnonnages, justement ?
Peut-être, ou même d'ailleurs.
Ou d'autres,
ou même d'ailleurs, avec comme principe une création par l'artiste d'un jeu, pas une copie, pas une reproduction. On va éviter même les cahiers de coloriage, il y en aura peut-être aussi, mais bon, ça ne sera pas la priorité. Et donc, oui, c'est de créer une ligne de jeux fait par des créateurs. Et ça s'appellera Ludo Art.
Et ça, c'est pour plutôt fin 2024 ?
Oui, ouais. Je pense qu'on sera prêt pour novembre-décembre 2024.
Vous n'avez pas beaucoup de projets, quoi.
Mais ça non, va, ça va.
C'est
ça,
bien, vous êtes une femme vibrante et c'est super.
Ça s'enchaîne bien. Mais en plus, je ne suis pas une énervée. Hein. On pense que je suis quelqu'un de speed, mais en réalité, je ne suis pas quelqu'un de speed.
Non, je ne vous vois pas comme quelqu'un de speed, mais c'est vrai que je trouve que ce fait de se projeter, d'avoir envie de faire des choses, de changer de style, de tester, voilà,
d'essayer, d'expérimenter,
voilà,
c'est ça.
On en revient sur l'expérimentation.
Expérimenter, être en prise avec le réel et pas qu'avec l'imaginaire. Et puis, moi, j'ai un dicton, c'est pas un dicton, mais à partir d'une idée, j'aime aller jusqu'au bout. J'aime voir ce que ça va donner. Et en général, le résultat me porte pour encore réinventer, continuer et vibrer, voilà, vibrer avec la vie.
Ben c'est sur ces très beaux mots de Virginie Guidé qu'on se quitte. Merci, vous avez fait une très belle conclusion, Virginie, c'était parfait.
Merci
et
à
puis,
vous.
Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre belle rencontre. Au revoir.
Merci, au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.